Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 1er février 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. La République islamique d'Iran fera de tout son possible pour mettre fin à l'agression contre le peuple yéménite, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le ministre syrien des Affaires étrangères a qualifié de déterminante et d'importante la visite de son homologue omani à Damas. Le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé les détails d'une vaste opération militaire menée dans les profondeurs des Émirats arabes unis. Le gouvernement malien demande à l'ambassadeur de France de quitter le pays dans les 72 heures. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Faisant référence aux évolutions du Yémen, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que la tragédie du Yémen s'aggrave en raison des agressions répétitives contre le Yémen. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire avec les journalistes, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a précisé à cet égard que la République islamique d'Iran fera tout son possible pour mettre fin au plus vite à ces jours difficile pour le peuple yéménite. Nous pensons que la seule solution à la crise yéménite est une solution politique et la fin de l'agression contre ce pays, a ajouté Saïd Khatibzadeh. Dans une autre partie de sa conférence de presse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a évoqué les négociations de Vienne et a déclaré que ces négociations sont menées avec un consensus national et en utilisant toutes les capacités internes, et c'est un trésor national que nous devons protéger. L'ambassadeur iranien auprès des organisations internationales basées à Vienne a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique n'aura pas accès au nouveau site nucléaire du pays qui est dans la ville centrale d'Ispahan avant que les pourparlers en cours à Vienne sur la levée des sanctions américaines et la relance de l'accord multilatéral et nucléaire iranien de 2015 ne parviennent à un résultat tangible. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique est un rapport routine. Il s'agit d'une mise à jour régulière de l'AIEA qui informe les membres de cette organisation des dernières informations techniques liées aux activités nucléaires de l'Iran, a déclaré Mohammad Reza Qaebi au micro des journalistes. Il a ajouté, selon ce rapport, l'Iran a informé l'agence qu'il avait l'intention de produire des pièces de centrifugeuse dans un nouveau complexe à Ispahan au lieu du complexe de Tessa à Karaj. Il a déclaré que le processus n'a pas encore commencé, tout en ajoutant que l'AUA pourra ainsi ajuster cette règle de surveillance, et bien que les informations recueillies grâce à ce processus de surveillance resteront en Iran et l'AUA n'y aura pas accès tant que Téhéran ne reprendra pas ses engagements nucléaires dans le cadre du plan global d'action conjoint, faisant référence à l'accord nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom du plan global d'action conjoint. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a examiné à Damas avec le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Badr bin Hamed al-Moussaidi, des questions d'intérêt commun. Dans une déclaration aux journalistes à l'issue des entretiens au siège du ministère syrien des Affaires étrangères, le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a insisté sur l'importance de la visite qui s'inscrit dans le cadre de l'action arabe commune, de la solidarité inter-arabe et de l'établissement des meilleures relations entre les pays arabes. Cette visite est déterminante, importante et prend ses dimensions des relations étroites entre les deux pays et les deux peuples amis entre le président Bachar al-Assad et le sultan Haitham ben Tariq, a précisé encore le chef de la diplomatie syrienne. De son côté, le ministre roumain des Affaires étrangères a souligné avoir transmis au président Bachar al-Assad les salutations et le message du sultan Haitham ben Tariq, qui insiste sur les relations anciennes entre les deux pays et les deux peuples. Il a ajouté que son pays aspire à l'approfondissement des relations économiques, commerciales, culturelles et patrimoniales. Au niveau arabe, Al-Boussaïdi a indiqué que de nombreux pays procèdent à rectifier les erreurs du passé pour aller de l'avant et établir des relations de coopération inter-arabe communes et dépasser le passé avec optimisme vers un avenir prometteur. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a annoncé dans un communiqué les détails d'une vaste opération militaire menée dans les profondeurs des Émirats arabes unis. La dernière opération, baptisée « Ouragan du Yémen 3 », a ciblé la profondeur des Émirats arabes unis, a déclaré le général Yahya Sari. Il a indiqué que des cibles importantes ont été atteintes à Abu Dhabi à l'aide de plusieurs missiles balistiques de type Zulfikar, ainsi que des cibles sensibles à Dubaï ont été touchées à l'aide de plusieurs drones de type Samad 3. Le mini-état de l'ennemi émirati restera un endroit dangereux tant que les outils de l'ennemi israélien continueront leur agression contre le Yémen. Nous avertissons les résidents et les entreprises des Émirats arabes unis d'éviter les installations vitales car elles sont des cibles possibles, a mis en garde le général Yahya Sari. Les forces armées yéménites ne resteront pas immobiles alors que le grand peuple yéménite souffre du blocus et de l'agression. Nous continuerons à défendre le cher Yémen jusqu'à la fin de l'agression et jusqu'à la levée du blocus, a-t-il conclu. Le gouvernement malien demande à l'ambassadeur de France de quitter le pays dans les 72 heures. L'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, a été sommé de quitter le Mali dans les 72 heures, a annoncé un communiqué publié par le ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement. Déjà dans la matinée, le département des affaires étrangères et de la coopération internationale a annoncé sur ses réseaux sociaux que le diplomate français a été convoqué ce lundi suite aux propos tenus par les autorités françaises à l'endroit des autorités de transition. L'ambassadeur de France à Bamako a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures, a précisé le communiqué du gouvernement malien. Cette mesure a fait suite aux propos hostiles et outrageux du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, tenu récemment, et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées, a précisé le gouvernement malien, tout en condamnant vigoureusement et en rejetant ces propos contraires au développement de relations amicales entre les nations. Le gouvernement malien a néanmoins réitéré sa disponibilité à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence, conformément aux aspirations légitimes du peuple malien. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique, plus précisément en provenance du Mali, et portant sur ce qui se passe actuellement entre le Mali et en fait la France, notre journal d'information s'achève. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Le Donbass accuse la CIA de former des spécialistes en guérilla pour Kiev, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Sur fond des tensions qui ne faiblissent pas autour de l'Ukraine, alors que l'Occident ne cesse d'accuser Moscou d'intention d'invasion, les responsables des républiques autoproclamées du Donbass dénoncent les activités occidentales visant à implanter en Ukraine des spécialistes militaires et des mercenaires. La CIA forme en Ukraine depuis 2015 des spécialistes de l'organisation de guérilla, a ainsi déclaré à Sputnik le dirigeant de la République populaire autoproclamée de Lugansk, située dans le sud-est de l'Ukraine. Par petits lots, en essayant de ne pas révéler les noms des stagiaires ukrainiens, la CIA organise la formation d'Ukrainiens dans ses bases militaires et les envoie en Ukraine avec les compétences nécessaires pour organiser des mouvements clandestins, maintenir la conspiration, recruter, mener des opérations de sabotage, a-t-il indiqué. Et d'ajouter qu'il y a de plus en plus de mercenaires dans le Donbass arrivant sous le couvert d'instructeurs militaires. Ce n'est pas du tout un secret, ce sont des données officielles selon lesquelles des centaines d'instructeurs étrangers des pays de l'OTAN sont en rotation sur le territoire ukrainien. Il estime qu'il n'est pas du tout garanti que ces instructeurs mercenaires prêteront la moindre attention aux ordres des commandants ukrainiens, car ils ont leur propre employeur et leurs propres tâches. La Russie a exprimé ses inquiétudes concernant le soutien militaire accordé par l'Occident à Kiev, notamment une augmentation du nombre d'instructeurs dans le sud-est ukrainien, ravagé par un conflit armé depuis le coup d'État de 2014. Le ministère russe des Affaires étrangères s'est dit également préoccupé par des informations faisant état d'activités persistantes de sociétés militaires privées américaines dans cette partie de l'Ukraine. Parallèlement, la Russie ne cesse de rejeter les accusations de l'Occident qui affirme qu'elle concentre des troupes près de la frontière pour lancer une attaque. Le Kremlin réaffirme ne pas avoir de plan agressif et souligne que les déplacements de troupes à l'intérieur de la Russie ne doivent préoccuper personne.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les relations entre le Mali et la France se sont fortement dégradées. En effet, depuis 8 ans, la France n'a pas cessé de planter son couteau du terrorisme dans le dos du peuple malien, sous prétexte de donc piller la richesse de ce pays. Mais maintenant, le peuple malien, les Maliens, ne veulent plus se soumettre à la force étrangère et préfèrent plutôt mourir de la faim. Alors justement, le ministre malien des Affaires étrangères a pris un ton très violent à l'égard des responsables français et a dit, je cite, « Les forces étrangères, la présence de toute force étrangère doit répondre aux règles maliennes, c'est-à-dire les intérêts du Mali, plutôt à ceux de la France. » En vous présentant nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Plaisir de vous retrouver et bonjour à mon collègue.
Un plaisir de vous recevoir dans l'émission Le Débat. Un grand bonjour à M. Mikhaïl Egorov, expert de questions internationales et journaliste international depuis le Maroc. M. Egorov, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation, ainsi que M. Luc Michel.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je m'adresse à M. Luc Michel. Alors, il est caché pour personne que la France est dans le Mali pour piller la richesse de ce pays. Mais maintenant, le peuple malien en a marre. Et justement, on a vu avec des manifestations. Que pensez-vous?
Écoutez, l'épicentre de la colère contre l'impérialisme français, c'est le Mali avec la Centrafrique. En réalité, les Français prétendent qu'ils sont là pour stabiliser le Mali et combattre ce qu'ils appellent le djihadisme, mais en réalité, ils sont responsables du malheur du pays. Lorsqu'en 2011, la Jamaïria libyenne de Kadhafi est détruite par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'OTAN et la France, il y a un scénario à la Libyenne qui est mis au point concernant les deux pays, le Mali et la Centrafrique. Dans les deux pays, on laisse des coalitions à dominante islamiste s'emparer du pouvoir ou intervenir. Que se passe-t-il au Mali? Au Mali, il y a un long contentieux qui date de plusieurs décennies avec la minorité Touareg. Ceci était au service de Kadhafi dans sa légion islamique. À la chute de Sirte, lorsque Kadhafi est assassiné, les Touaregs sont orphelins. À ce moment-là, il y a un scénario machiavélique qui est monté par les généraux français et les généraux américains de l'Africom. On laisse avec armée bagage, c'est-à-dire des blindés de transport de troupes, des missiles anti-chars et anti-hélicoptères, on laisse les Touaregs traverser le Niger et traverser la Libye et rentrer au Mali, faire leur jonction avec les terroristes d'Atmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et représenter dès lors une force considérable. C'est à ce moment-là que les Français, avec François Hollande, interviennent. Auparavant, il y a eu un coup d'État à Bamako, encouragé par l'ambassade américaine. C'est le coup d'État du lieutenant Sanogo, et qui achève de détruire l'État malien et l'armée malienne. En réalité, bien loin de combattre les djihadistes, les Français remettent les 3/5 du pays sous leur contrôle et sur leurs alliés d'Acmi. Et pendant ce temps-là, évidemment, la France s'assure des richesses du sous-sol, notamment les hydrocarbures et notamment l'uranium, puisque, comme le Niger, le Mali fournit la France en uranium. ce qu'on a constaté dedans, évidemment, la soi-disant guerre aux djihadistes, c'est une farce. Il y a eu 53 morts en 8 ans dans les rangs de l'armée française. Pendant la même période, entre 1960 et 1968, lors d'une véritable guerre, celle des Américains au Vietnam, il y a eu plus de 100 000 morts. Il n'y a pas photo. Le théâtre de la guerre au terrorisme, évidemment, il se fait sur le dos des Maliens. Il y a eu 2 coups d'État. Le premier a été récupéré par les éléments de la France-Afrique. Le second a été mené par des jeunes colonels pro-russes. Ils ont changé le régime. Ils ont appelé à l'aide la Russie et l'Algérie. Ils ont fait appel aux paramilitaires russes, non pas le groupe Wagner qui n'existe pas, mais le groupe Serwa Security, déjà déployé en Centrafrique. Et aujourd'hui, le Mali est perdu définitivement pour la France.
Oui. Merci pour ce développement, Luc Michel. À présent, j'aimerais connaître celui de M. Mikhaïl Egorov depuis le Maroc. Alors, M. Egorov, la France, pendant 8 ans, a planté son couteau du terrorisme dans le dos du peuple malien. Par ce prétexte, a pillé la richesse de ce pays, comme l'a indiqué Luc Michel, neutralisant économiquement et militairement ce pays.
Oui, c'est exact. Je suis entièrement d'accord avec l'analyse qui a été faite par M. Michel. Mais comme vous avez bien souligné en tout début d'émission, aujourd'hui on assiste effectivement à un ras-le-bol général de la population malienne, mais ce n'est pas seulement du Mali qu'il s'agit, puisqu'aujourd'hui cela est devenu très clairement un ras-le-bol général de beaucoup de pays, de beaucoup de populations africaines, notamment dans cette région du Sahel, en Afrique francophone, qui jusqu'à encore récemment faisait partie intégrante du système communément appelé de la France-Afrique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, les événements au Mali nous ont montré que l'effet de domino non seulement se poursuit, l'effet domino de perte d'influence de la France-Afrique, mais plus généralement de l'establishment occidental atlantiste. On l'a vu avec la République centrafricaine, effectivement. On le voit aujourd'hui avec le Mali, mais cela ne va pas s'arrêter au Mali. Je l'ai dit plusieurs fois dans le passé et je reste sur cette position aujourd'hui encore. Cet effet domino va se poursuivre à d'autres endroits de la région et plus généralement du continent africain. Et l'establishment occidental le comprend parfaitement, d'où l'hystérie collective que l'on observe de leur côté. Moi, ce que je trouve, vous savez, assez rassurant d'une certaine façon, c'est que s'il y a encore... Il y a encore tout récemment l'establishment politico-médiatique occidental parlait d'isolement, du prétendu isolement du Mali sur la scène vis-à-vis de la communauté, comme il l'appelle, internationale, pourtant qu'il ne représente pas. Au vu des nombreux soutiens qui ont été apportés aux autorités maliennes par la Russie, par la Chine, par plusieurs pays voisins, des États régionaux, des États africains et d'autres pays de différentes régions du monde, ils commencent timidement, aujourd'hui, les médias occidentaux, à parler du fait que le Mali est en conflit avec une partie de la communauté internationale. Vous savez, c'est déjà un énorme progrès. Pour ceux qui en étant une extrême minorité, qui continuent à s'autoproclamer comme étant soi-disant la communauté internationale, encore une fois, qu'ils ne représentent guère, aujourd'hui, finalement, il y a un minimum de sagesse qui arrive de leur côté. Ils voient bien parfaitement qu'ils ne représentent pas la communauté internationale et donc ils parlent d'une partie de la communauté internationale, même s'il faut quand même bien préciser que c'est une infime partie de la communauté internationale, sans oublier les supplétifs qui assistent l'establishment occidental et dont la voix, je pense, ne doit même pas être prise en compte.
Oui, Luc Michel, M. Egorov pense que cette colère malienne est très contagieuse, puisque dans d'autres pays africains, comme en Burkina Faso ou bien au Niger, on voit justement cette colère se développer contre la présence des forces étrangères. Est-ce que vous êtes d'accord?
C'est un tsunami qui se développe et qui est mené par ce qu'on appelle le néo-panafricanisme. C'est-à-dire qu'actuellement, les Français qui sont le ventre mou de l'impérialisme sont contestés partout, mais au-delà d'eux, ce sont les Américains et les forces de l'OTAN. Il y a des événements qui se passent dans toute l'Afrique, mais en particulier au Burkina Faso, au Niger, au Mozambique, en Éthiopie. C'est la contestation de l'ordre occidental. Jusque 2015, l'impérialisme occidental faisait ce qu'il voulait en Afrique. Aujourd'hui, le bloc de l'Est, en particulier la Russie et l'Iran, sont arrivés sous pire les néo-panafricanistes. C'est la fin de la domination occidentale. Au Mali, tout a commencé d'ailleurs par une pétition de mouvement des jeunes patriotes maliens qui s'appelait Vladimir Poutine vient au secours pour sauver le Mali et qui a recueilli 8 millions de signatures. Il y a aujourd'hui un grand mouvement panafricaniste qui s'appelle Yéré Wolo, qui est notamment guidé par mon ami Amina Fofana et qui est pour alliance avec la Russie. Tous ces gens-là ne sont plus décidés avec leurs alliés au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, etc., ne sont plus décidés à tolérer l'impérialisme occidental, et en particulier celui qui est son ventre mou aujourd'hui, l'impérialisme français, la France-Afrique, qui a définitivement perdu ce qui était le but des guerres coloniales depuis la guerre d'Algérie et la guerre du Cameroun dans les années 1950, la conquête des esprits et des cœurs. Aujourd'hui, les esprits et les cœurs sont perdus au cœur de l'Asie centrale, en particulier en Centrafrique, en particulier au Mali, en particulier au Burkina Faso, où des jeunes colonels viennent de suivre Assimi Goïta, et en particulier, évidemment, dans beaucoup d'autres pays africains. C'est une vague de faux qui est sans précédent en Afrique parce qu'elle concerne aujourd'hui de larges masses considérables. On ne parle pas ici en milliers de gens, on parle en millions. Par exemple, dernièrement à Bamako, ce que les médias français dissimulent à l'opinion publique française, c'est 4 millions de Maliens qui sont descendus dans la rue pour soutenir les colonels pro-russes de Bamako.
Oui, Luc Michel, est-ce que cela va pousser le peuple malien d'avoir la liberté et dépourvu de toute force étrangère? Car vous avez évoqué tout à l'heure la Russie, par exemple, qui est venue en aide de certains pays africains pour leur débarrasser des forces étrangères. Est-ce qu'ils sont là, les Russes, pour donc aider les peuples africains ou bien remplacer peut-être certaines forces étrangères?
Non, écoutez, ça c'est la propagande de Paris. Paris dit « Vous allez remplacer la France-Afrique par l'impérialisme russe ». Mais il y a une différence fondamentale, c'est que la Russie n'a jamais eu de colonie en Afrique. Ce n'est pas une puissance impérialiste. En 1830, donc au 19e siècle, elle était déjà alliée. Il y avait une alliance entre la Russie des Tsars et l'Éthiopie, qui est le plus vieil État africain, il date du 2e siècle. En 1880, lors de la conférence de Berlin en 1885, le seul État qui n'est pas colonisé, c'est l'Éthiopie, parce que la Russie, justement, la soutient. À partir de 1922, il y a la conférence de Bakou, c'est-à-dire que la Russie bolchevique décide d'aider les indépendances africaines et asiatiques. La conférence de Bakou, elle est renouvelée par la conférence de Bandung en 1956. Et partout, pendant toute la première guerre froide, l'Union soviétique appuie les indépendances africaines. La Russie aujourd'hui, c'est un État-continent qui a toutes les richesses que l'Afrique possède. Le gaz, le pétrole, le manganèse, l'uranium qui est produit en Mongolie extérieure, le manganèse, les diamants, etc. Il faut rappeler quelque chose, c'est qu'en étendue, l'État-continent russe est presque aussi grand que la Russie. Ce que la Russie vient chercher, c'est d'émanciper l'Afrique, c'est un allié géopolitique, ce n'est pas des matières premières ou l'exploitation de sa main-d'œuvre.
Oui, tout contrairement à la France. Monsieur Mikhail Egorov, votre prise de position à cet égard, je vous prie.
Je suis entièrement d'accord, c'est exactement de cela qu'il s'agit, et je pense que c'est dans le cadre de cette opération à laquelle on est en train d'assister sur le continent africain, et à laquelle participent les grandes puissances internationales pro-multipolaires, la Russie, la Chine, sans oublier l'Iran, parce qu'aujourd'hui il est très important de rappeler que l'ordre multipolaire international qui est devenu une réalité, il est justement très activement défendu et promu chaque jour qui passe par le triomphe vira Russie, Chine, Iran. Ça c'est aussi c'est quelque chose de très important. Et pour le reste, il est très important aujourd'hui, dans le cadre de cette lutte de libération qui est en train de se dérouler et qui chaque jour qui passe se renforce, il est très important que l'axe de la multipolarité se renforce et l'Afrique, je l'ai dit plusieurs fois également dans le passé, doit devenir un acteur majeur de l'axe multipolaire, un bloc majeur, ce dont l'establishment occidental n'a jamais voulu et ne veut pas. L'Occident, l'establishment occidental souhaite maintenir l'Afrique dans un état d'asservissement, c'est tout à fait évident, et aujourd'hui les actes et les déclarations qu'ils font très arrogantes, comme à leur habitude, ne font que le confirmer, et c'est pour ça qu'il en va du rôle des grandes puissances non occidentales, résolument pro-multipolaires, de défendre justement ce combat pour la liberté des peuples africains, pour justement asseoir une bonne fois pour toutes définitivement l'ordre international multipolaire qui représente l'écrasante majorité de la population terrestre.
Monsieur Egoff, un mot tout de même sur les propos du ministre malien des Affaires étrangères, Diop, qui a pris un ton extrêmement violent, surtout à l'égard de la ministre des Armées, et qui a dit de se taire, tout simplement, et que maintenant, il a dit que, donc, je cite, « toute force étrangère doit se soumettre et répondre aux règles maliennes ». Quelles sont ces règles, à votre avis ? Le départ des forces françaises ?
Moi, je pense tout d'abord que le temps qui a été choisi aussi bien par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et plus généralement par les autorités maliennes, il était avant tout sublime. Il n'était pas agressif, mais il remettait à sa place l'arrogance, justement, caractérisée par le système de la France-Afrique, notamment par Sieur Le Drian. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a adopté un ton agressif, irrespectueux et totalement arrogant, c'est une fois de plus Jean-Yves Le Drian, qui parle d'une junte illégitime, qui prend des actes irresponsables. C'est totalement inconcevable vis-à-vis d'un État souverain, vis-à-vis des autorités d'un pays souverain, d'autant plus qu'il voit parfaitement de quel soutien populaire jouissent les autorités maliennes en place. Donc je pense que le temps choisi était parfaitement juste. Et en ce qui concerne la deuxième partie de votre question sur les objectifs, il est tout à fait évident que si cette arrogance va se maintenir, à un moment ou à un autre, et je pense que ce moment ne va pas tarder, bien sûr sur la table il y aura tout simplement la nécessité de forcer les forces occidentales à quitter définitivement le territoire malien. Je pense que c'est déjà un processus qui suit son cours. On l'a vu récemment avec les troupes danoises qui ont dû repartir parce qu'ils sont venus sans avoir respecté les règles au préalable vis-à-vis d'un État souverain. Les autorités maliennes ont été très claires, elles ont insisté et elles ont forcé les Danois à partir. Maintenant, il reste à faire partir les autres, notamment les forces françaises, sans oublier les forces allemandes, qui évidemment se contredisent elles-mêmes. Il y a encore quelques temps, ils disaient que si les instructeurs russes arrivent, eux, ils vont partir. Les instructeurs russes sont arrivés, maintenant ils ne veulent pas partir, donc ils ne font que se contredire et se ridiculiser. Mais aujourd'hui, il est plus que jamais important, justement en tenant compte de la détermination des autorités maliennes et de la mobilisation sans précédent du peuple malien et de beaucoup d'autres peuples africains, à les forcer de partir définitivement. Bien sûr, je pense que c'est effectivement l'objectif ultime.
Oui. Luc Michel, votre réaction face à la prise d'opposition de M. Abdoulaye Diop, donc le ministre malien des Affaires étrangères, c'est une position claire et simple, mais en même temps très violente. Que pensez-vous?
Il y a quelques années, il y avait un livre célèbre qui est sorti du journaliste français Antoine Gazet. C'est arrogant comme un Français en Afrique. Il y a quelques semaines, Françoise Pagny, la ministre française des Armées, annonçait la nouvelle doctrine de la guerre médiatique de la France. Elle annonçait que la France mènerait une guerre avec ses adversaires, en particulier la Russie et les Maliens. Et elle envoyait même les voix nouvelles à voix seraient employées. Hier, le ministre Le Drian a donné une grande interview à l'hebdomadaire français Le Journal du Dimanche. Et dedans, il expliquait en fait ce qu'on appelle la parabole, c'est-à-dire qu'on voit la paille qui est dans la poutre de l'adversaire, qui est dans l'œil de l'adversaire, mais pas la poutre qui est dans son œil. Il accuse la Russie de piller les économies africaines, de venir renforcer des jeunes militaires. Il parle des généraux maliens qui ont pris le pouvoir, alors qu'en réalité, ce sont des colonels. Mais dire les colonels maliens, ça leur rappelle le colonel Kadhafi. Et la France, avec son arrogance, elle est en train de s'aligner définitivement, évidemment, l'opinion publique africaine. Et derrière la France, il y a les États-Unis et il y a l'OTAN. eux aussi sont en train de s'allier des opinions publiques occidentales. Le départ des forces de l'OTAN danoise après le départ des Suédois, ça indique le chemin que vont prendre toutes les forces militaires françaises. Il faut rappeler que l'espace aérien du Mali a été interdit aux Allemands et aux Français, et l'espace aérien de l'Algérie a été interdit évidemment à la force Barkhane française. C'est une, un soulèvement des Africains, des États africains soutenus par leurs opinions publiques contre l'impérialisme occidental. Le temps des grandes expéditions militaires, comme celle justement contre la Libye en 2011, contre la Centrafrique en 2013 ou contre le Mali en 2012, est bien terminé.
Oui. Luc Michel, est-ce bien l'opinion publique mondiale qui a poussé donc la France à renoncer à cette richesse malienne, ou bien l'intervention des responsables maliens, ou la colère même de la population malienne, ou bien l'aide de la Russie et certains d'autres pays?
C'est un phénomène qui est double. D'une part, il y a l'arrivée du bloc de l'Est à partir de 2016 en Afrique. Tout a commencé en 2016 par le soutien de la Russie au Burundi, qui était attaqué par une révolution de couleur. Et à Moscou, on a parlé avec justesse du Maïdan sur Bujumbura. Ensuite, les Russes sont intervenus en Soudan, en Libye, et puis à partir de 2017 en Centrafrique. Ils sont maintenant déployés au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale, au Mozambique, et maintenant ils viennent d'arriver au Mali. Ils ont été suivis à partir de 2018 par l'Iran, votre pays, l'Iran, qui soutient le Sénégal, qui soutient le Bénin, qui soutient plusieurs pays du golfe de Guinée et qui soutient l'entrée de l'océan Indien, notamment la Martinique. Bien entendu, les éléments sont intervenus. Ils sont en liaison avec ce qu'on appelle le néo-panafricanisme, c'est-à-dire les masses panafricaines ralliées à la quatrième génération du néo-panafricanisme et guidées par des États comme l'Éthiopie d'Abiy Ahmed, la Guinée équatoriale d'Oblige des Bamassoko, ou jadis le Tchad du maréchal Idriss Déby Itno. Il y a également des présidents comme Fossard, Koch, Tondera, ou aujourd'hui le colonel Assimi Goïta. Tout cela fait un mouvement puissant, masse panafricaine alliée au bloc de l'Est, et qui oblige évidemment les Occidentaux à évoluer. Il faut rappeler une dernière chose, c'est qu'à l'intérieur même des métropoles occidentales, il y a un courant impérialiste qui n'est plus le courant minoritaire tel qu'il existait il y a 10 ans ou il y a 50 ans, tel que par exemple moi je l'ai toujours représenté, notamment aux côtés de la Libye, mais il y a aujourd'hui des courants d'opinion considérables, notamment les gilets jaunes en France qui ont soutenu la cause africaine. Il y a eu un sondage Ipsos Lecoin en janvier 2021. 51% des Français étaient opposés au maintien de l'opposition de l'opération Barkhane au Mali. Et un noyau dur qui correspond aux gilets jaunes de 19% des Français étaient opposés au maintien de la France-Afrique et des aventures coloniales de la France. Tout cela, ce sont des masses considérables contre l'impérialisme occidental et l'exploitation.
Absolument. Mikhaïl Egorov, vous aurez le dernier mot. Quelle est la force essentielle qui a poussé la France à renoncer à tant de richesses et de ne plus continuer à piller la richesse de ce pays?
Vous savez, ce n'est pas qu'elle a renoncé. Au contraire, elle ne compte justement pas renoncer, et pas seulement la France. Et bon, il faut bien préciser l'establishment élyséen, France-Africain, et plus généralement occidental, parce qu'effectivement, quand on parle de la France, Luc Michel l'a bien rappelé tout à l'heure, c'est les États-Unis qui sont derrière. La France, quand on parle du ventre mou, du bloc occidental, je pense que c'est une expression qui est juste. C'est pas qu'ils ont renoncé, mais ils sont incapables de faire de leur arrogance. Et c'est ce qui, en fait, est en train d'accélérer leur chute finale. Parce que eux, ils pensent qu'à travers ces menaces, ces intimidations, ces gesticulations, ils peuvent, comme dans le passé, mettre la pression sur les peuples et les forcer à faire marche arrière pour continuer à subir le diktats atlantistes occidentales, sauf qu'au final, aujourd'hui, effectivement, on n'est plus dans le monde unipolaire du passé, le monde est définitivement révolu et terminé, et face à l'arrogance extrême qui les caractérise, l'establishment occidental, dans son ensemble, aujourd'hui, ça ne fait qu'accélérer encore plus la détermination des peuples en vue de défendre leur souveraineté, leur dignité et l'ordre international multipolaire qui s'est imposé, y compris en large partie grâce aux efforts conjoints de la Russie, de la Chine et de l'Iran et de nombreuses autres nations. Et aujourd'hui, effectivement, ce courant est devenu extrêmement puissant. Il est instoppable et c'est pour ça que l'establishment occidental perdra, j'en ai pas le moindre doute.
Eh bien, comme on dit, l'orgueil précède la chute. Mikhaïl Agorov, journaliste international et expert des questions internationales depuis Rabat, Maroc. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Ce sont les mots du département d'État américain. Ils ont déclaré il y a quelques jours que la politique de pression maximale sur l'Iran avait conduit à une défaite des unions remigneuses des États-Unis, a déclaré le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. L'honorable Ayatollah Khamenei a reçu, c'était le dimanche 30 janvier 2022, les producteurs et les responsables économiques et industriels du pays. Le but des ennemis dans la guerre économique était l'effondrement de l'économie iranienne, qui n'était certes qu'un prélude pour qu'en détruisant l'économie iranienne, ils puissent mettre le peuple contre la République islamique et poursuivre ainsi leurs propres intentions politiques néfastes, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Aujourd'hui, la production est du djihad. Le djihad consiste à déployer des efforts contre les attaques et les mouvements de l'ennemi en vue de les confronter. Aujourd'hui, l'hostilité des ennemis envers l'économie de notre pays est évidente, a-t-il souligné. Là où on a fait confiance à nos jeunes et qu'on leur a demandé d'accomplir une tâche, ils ont véritablement brillé. Et ce sont dans tous les domaines, de la création des meilleurs vaccins contre COVID-19 à la fabrication de missiles de précision. Nous devons apprécier ces talents, a noté l'honorable Ayatollah Khamenei. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les fonctionnaires de l'État et les organisations gouvernementales s'ingèrent dans les activités économiques, mais je suis d'accord avec le fait qu'ils guident, supervisent et appuient ces activités. Cela doit certainement être accompli, a souligné l'honorable Ayatollah Khamenei. Dieu soit loué, le bastion de la production et de l'économie du pays tient bon. L'armée qui a tenu tête à l'ennemi et les officiers de cette défense sacrée étaient des entrepreneurs et gestionnaires économiques, les ouvriers étant des combattants sincères et dévoués dans cette arène, a souligné le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Les présidents iraniens et français, respectivement Ebrahim Raisi et Emmanuel Macron, se sont entretenus au téléphone. Au cours de cet appel téléphonique, les deux présidents ont examiné les moyens du renforcement des relations bilatérales, les questions régionales et la dernière situation des négociations pour la levée des sanctions à Vienne.
Soulignant l'aveu des États-Unis concernant l'échec de la politique de pression maximale, le président iranien a insisté que, au processus des négociations, la République islamique d'Iran a prouvé sa volonté et son sérieux afin de parvenir à un accord, et tout effort de la part des autres parties à cet égard doit inclure la levée des sanctions, la vérification et une garantie valable. Insistant que la stabilité et la sécurité de la région ne peuvent être obtenues que par des solutions interrégionales et non pas par des interventions extérieures, le président Raïsi a appelé la communauté internationale à prêter attention à la crise humanitaire au Yémen et à lever le siège du peuple opprimé de ce pays. Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a souligné que la République islamique d'Iran a le droit de ne pas faire confiance aux États-Unis car ce sont eux qui ont provoqué cette crise. Le président français a également condamné les attaques militaires contre le peuple yéménite. Les deux présidents iraniens et français ont également discuté des évolutions régionales, dont la situation au Liban. La DCA de l'armée syrienne a été actionnée pour repousser une agression israélienne en missiles ciblant certaines positions aux alentours de Damas. Une source militaire a déclaré à l'agence d'information officielle syrienne Sana que l'ennemi israélien avait mené une agression aérienne en missiles depuis la région de Rayak à l'est de Beyrouth. Plusieurs de ces missiles qui ont visé des sites à proximité de Damas ont été abattus par notre DCA, a précisé l'agence Sana. Plus tôt, les systèmes de défense de l'armée syrienne ont également été actionnés pour affronter une agression israélienne en missile contre les environs du port de Latakia. Une source militaire syrienne a confirmé que l'agression a visé le parc à conteneurs du port commercial de Latakia, provoquant des incendies sur place et causant d'importants dégâts matériels. Résurgence de Daesh en Syrie. Les Américains ont allumé un feu qu'ils ne veulent pas éteindre. La Russie exige une réunion du Conseil de sécurité sur le groupe de Takfir al-Wahhabit Daesh dans le nord-est syrien. La lutte contre Daesh sert de prétexte à Washington pour jouer la carte des Kurdes contre Damas dans cette région, estime le géopolitologue Bassam Tahan. Moscou tape du poing sur la table. Malgré la reprise par les FTS, constituée principalement de Kurdes, de la totalité de la prison de Rouairan à Asaké dans le nord-est de la Syrie, la pépinière takfiriste préoccupe au plus haut point la Russie. Le premier représentant permanent adjoint de la Russie auprès des Nations Unies a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les récentes attaques de Daesh sur le territoire syrien. Et pour cause, c'est la première fois depuis la défaite territoriale de l'organisation terroriste en mars 2019 à Barouz que Daesh entreprend une opération d'une telle envergure. En effet, les combats entre les Kurdes et les takfiristes ont duré près d'une semaine et ont fait plus de 200 morts. Les forces de la coalition dirigée par Washington ont survolé les environs pour quadriller la zone. Ce retour tonitruant de la menace terroriste inquiète également l'envoyé spécial du secrétaire général pour la Syrie. Pour lui, c'est un message clair sur l'importance de s'unir pour résoudre définitivement ce conflit. Il invite de surcroît toutes les parties prenantes à trouver un terrain d'entente. Yémen frappe balistique contre les mercenaires émiratis à Shabwa, un drone US abattu à Ma'arib. un grand nombre de mercenaires des Émirats Arabes Unis et de membres du groupe Takfir-o-Wahhabite Daesh ont été tués et blessés, et 5 de leurs véhicules détruits suite à une attaque balistique visant leur attroupement dans la province de Chabwa. Un missile balistique a visé avec précision un grand rassemblement des mercenaires des Émirats Arabes Unis et d'éléments de Daesh à Al-Naroub dans le district de Dasilan dans la province de Chabwa, a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. Il s'agit de la deuxième attaque en missile contre les mercenaires émiratis en moins de 24 heures. Samedi, plus de 40 mercenaires, dont deux hauts chefs militaires, ont été tués et blessés par un tir de missile balistique visant leur rassemblement à Chabwa et puis à Marib, au nord-est. Un drone espion de fabrication américaine a été abattu par les forces de l'armée et des comités populaires yéménites. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.